Marie-Françoise Eau le présente le journal.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. La CIMEX, à l'heure des défis et des enjeux mondiaux, la 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun s'est officiellement ouverte ce matin au Palais des congrès de Yaoundé. La cérémonie était présidée au nom du chef de l'État par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté. Dans le 13h, le potentiel minier du Cameroun et la nécessaire exploitation locale, le défi de la migration des industries vers les mines semi-mécanisées était des lieux dans la région de l'Est. Présidentielle 2025, halte aux écarts de langage sur les réseaux sociaux. La mise en garde est du ministre de l'administration territoriale. Paul Atanganji signe un communiqué où il fustige les propos anti-républicains et tendancieux de certains leaders politiques. Ils seront traduits devant les instances judiciaires, prévient le Minat. Les détails du communiqué dans le 13h. En nécrologie, Karine Olive Yabit n'est plus. La journaliste et présentatrice des journaux télévisés à la CRTV est décédée au petit matin de ce jeudi 24 2024 des suites de maladie à Paris en France. Évocation dans ce journal. Jeux universitaires de Garoua, l'ouverture a lieu samedi. 19 délégations sur les 22 attendues sont déjà sur place. Et puis des nouvelles rassurantes sur la situation des étudiants blessés. 28 des 35 admis à l'hôpital régional de Garoua ont été libérés. Pour ceux encore hospitalisés, le staff médical affirme que leur pronostic vital n'est pas engagé. Passer du potentiel au réel, tel est le défi que se lance la conférence des ministres en charge des mines de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Au nom du chef de l'État Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Gouté a procédé en matinée à l'ouverture officielle des travaux, conjointement avec la 4e édition de la conférence internationale des mines et expositions du Cameroun. Le thème des travaux correspond à la vision du chef de l'État de faire passer le Cameroun un fort potentiel minier à pays producteur minier. Laurentine Bokonou.
Des lingots d'or de 2 kg entre les mains d'une valeur de 80 millions de francs CFA chacun. Des échantillons de calcaire, de bauxite, de manganèse, de lithium, etc. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont touché du doigt. Sans faire la fine bouche, avec trompette et tambour, nous sommes au Cameroun, ici au palais des congrès de l'une des collines qui surplombe la cité capitale. Les oriflammes des 78 pays de l'Organisation des États de l'Afrique, Caraïbe et Pacifique flottent pour célébrer la nouvelle vision d'exploitation des mines. La transition du potentiel géologique à la mise en production des gisements miniers comme moyen de renforcement de la croissance économique dans la sous-région. Tel est le thème retenu pour la 4e édition de la Convention internationale des mines, exposition du Cameroun. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, s'en réjouit pour sa pertinence et son actualité. Il coïncide, a-t-il indiqué, avec la vision d'émergence du secteur minier telle que prônée par le chef de l'État, Paul Biya. Après être resté dans l'exportation, il est temps de passer à la transformation locale afin de tirer meilleur avantage des ressources minières pour un développement inclusif et durable. Dans son message à la nation le 31 décembre 2023, le président de la République avait eu cette déclaration. Notre pays dispose d'importantes réserves minières non exploitées que nous devons valoriser. Je me réjouis du démarrage des projets miniers que j'ai annoncés l'année dernière concernant l'exploitation des gisements de fer de Kribilobé, du Pindi Grand Zambi et de Mbalam Nebada. Fin de citation. Plusieurs prises de parole ont marqué l'ouverture officielle des travaux ici au palais des congrès de Yaoundé. Toutes s'accordent sur la même conviction. Création d'emplois, collaboration, partenariat afin de tirer meilleur avantage des ressources minières pour un développement inclusif et durable. Plus de 1000 exposants en qualité de délégués, panélistes nationaux et internationaux, experts miniers, banquiers, assureurs, économistes, juristes, environnementalistes, prennent part aux travaux aux côtés des ministres des mines des pays membres de l'Organisation des États de l'Afrique Caraïbe et Pacifique. Palais des congrès de Yaoundé, Laurentine Bokonou, CRTV.
La Conférence internationale des mines et expositions du Cameroun, qui mobilise les 79 États membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, a donc officiellement démarré ce jeudi au Palais des Congrès de Yaoundé. Le Cameroun accueille ses assises qui visent à faire des industries extractives une priorité pour renforcer la croissance économique. La transition du potentiel géologique constitue l'un des enjeux majeurs de ces assises. Les attentes de quelques officiels dans ce reportage de Séraphin.
Faire des économies des pays membres de l'Organisation des États des Caraïbes et du Pacifique de véritables moteurs de la production minière inclusive et durable avec un accent sur le développement des technologies pour une transformation locale. Pour cela, ces pays de l'EACP peuvent compter sur l'apport de l'Union européenne. Jean-Marc Châtenier, ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun et en Guinée équatoriale.
Bien sûr, c'est un événement majeur aussi dans la discussion pour nous avec les États de l'Organisation des États ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Nous, on veut vraiment faire des partenariats en profondeur, dans la durée, qui portent bien sûr sur les minerais, mais qui portent aussi sur tout ce qui entoure la production minière.
Les acteurs du secteur minier, venus de plusieurs pays d'Afrique, formulent de nombreuses attentes.
Je suis M. Lamaro et je suis venu au Cameroun et cette assise est à point nommé. C'est le fondement du développement d'un pays.
La CEMAC, au cœur de cette transition géologique, entend jouer sa partition. Charles Assamba Ongodo, vice-président de la commission de la CEMAC.
La CEMAC attend beaucoup de ses assises. La CEMAC sort de Brazzaville. Elle a réuni les pays d'Afrique centrale pour continuer à élaborer une véritable politique minière, pour continuer à mettre en place les éléments du code minier communautaire. Donc la CEMAC est bien consciente que le développement des pays de la sous-région Afrique centrale aujourd'hui passe par l'exploitation des richesses du sous-sol.
Le Cameroun, désormais pays producteur minier, va mettre en œuvre de nombreux projets d'envergure afin de booster sa croissance économique.
La semi-mécanisation aujourd'hui est de mise dans l'industrie minière à l'Est. Avec beaucoup d'espoir au sein des municipalités, la contribution des engins permettait d'avoir une plus grande quantité d'or et autres minerais. Seulement, les risques de dégradation de l'environnement sont plus élevés et les mairies disent attendre les retombées de cette semi-mécanisation. Elvis Nguimaison, CRTV Est.
L'époque des pratiques artisanales dans les sites miniers de l'Est est désormais révolue. Madame Michel, maire de Goura, et Abba Lévy, maire de Ouli.
Ça qui est à la mode, semi-mécanisé, c'est lorsqu'on utilise les engins, les pelles excavatrices.
Nous avons vu l'introduction des engins tels que les proclins, les pelles chargées de l'ébène.
La semi-mécanisation aujourd'hui de mise dans l'industrie minière à l'Est a charrié beaucoup d'espoir. Madame Michel, maire de Goura.
Là, on peut réussir à avoir une certaine quantité d'or. Avant, là, ça se faisait de manière artisanale. Il y avait beaucoup de pertes.
Des espoirs très vite déçus du fait d'une dégradation rapide de l'environnement. Abba Lévy, maire de Ouli.
Il y a l'abandon profond de 30 à 40 mètres, par exemple 50 mètres. Il y a la destruction sauvage de la nature et de l'environnement.
Et Madame Michel, maire de Goua.
Il y a la dégradation de l'environnement qui est poussée. Que les populations ressentent le fruit de l'exploitation.
Tous les magistrats municipaux appellent à un respect des cahiers de charges. Béatrice Guimaison, CRTV.
Les sites miniers du Cameroun couvrent une superficie totale de 160 000 km². Ceux-ci se concentrent dans les régions de l'Est, de l'Ouest, de la Damawa du Nord et du Centre. Un riche potentiel minier qui varie de l'or aux terres rares, en passant par les métaux de base et l'uranium. Mais ce potentiel est englué en grande partie dans l'informel et la clandestinité. Augustine Bassam.
C'est une lapalissade. Le Cameroun dispose d'un sous-sol assez riche, hébergeant d'immenses ressources minérales et d'importants gisements de minerais. Deux gisements d'envergure suscitent actuellement un intérêt particulier vu leur potentiel. Il s'agit des gisements de bauxite de Mine Martap et de Ngaoundal. Il se trouve cependant que le secteur ne contribue encore que faiblement ou pas du tout à l'économie camerounaise, soit 1% du PIB. L'on pointe du doigt la volonté politique et l'absence de mesures efficaces pour attirer les investisseurs investisseurs, le pays n'arrive toujours pas à valoriser son important potentiel minier. Les énormes ressources minières dont regorge le Cameroun devraient pourtant créer l'emploi, la richesse et générer des revenus pour la population, l'État et les investisseurs. Toutes choses qui nécessitent un potentiel technique et une meilleure gouvernance. L'État en est conscient. La stratégie nationale pour le développement SND 30 ressort la volonté des pouvoirs publics camerounais de s'appuyer sur le secteur minier afin d'atteindre l'émergence. Une orientation stratégique qui se manifeste d'ores et déjà par l'amélioration du cadre législatif, la révision en cours du code minier et l'attribution des permis aux privés.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 10 minutes à Yaoundé. L'attention du ministre de l'administration territoriale a été appelée depuis quelque temps sur les dérives graves de certains acteurs politiques de l'opposition en quête de notoriété. Ils occupent l'espace médiatique et les réseaux sociaux pour diffuser des messages tendancieux anti-républicains dans le but de troubler l'ordre public, discréditer l'État et provoquer des remous sociaux à des fins égoïstes. Tout le monde le sait, seul le chef de l'État incarne les institutions républicaines. Les acteurs politiques qui prétendent respecter les institutions doivent commencer par respecter celui qui les incarne. En effet, un député aux abois, exclu récemment d'un parti politique, tient régulièrement des propos désobligeants à l'endroit du président de la République. Il est à rappeler que l'outrage au président de la République est réprimé par le code pénal et ne saurait être toléré lorsque les excès verbaux visent directement le chef de l'État. Il faut que cela cesse avant qu'il ne soit trop tard pour ce député multirécidiviste. Le ministre de l'administration territoriale tient également à redire que la qualité de député ou de dirigeant de parti politique n'est pas un passe-droit pour défier impunément l'autorité de l'État, inciter à la rébellion et menacer de mettre le pays à feu et à sang lors de l'élection présidentielle de 2025 si des intérêts égoïstes et partisans ne sont pas satisfaits. Le MINAT rappelle aux dirigeants des partis politiques que seuls les sous-préfets qui travaillent sous l'encadrement des préfets et la coordination des gouverneurs de région sont habilités à autoriser la tenue des activités politiques, congrès, meetings, réunions dans leurs unités de commandement respectives. Le chef de l'État, Paul Biya, respectueux des lois et règlements de la République, n'a jamais failli à cette exigence lorsque son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, se réunit en congrès. Il en est ainsi de tous les meetings et réunions organisés par le RDPC à travers l'ensemble du territoire national. Depuis le début de l'année 2024, 26 meetings politiques du RDPC n'ont pas reçu l'autorisation des autorités administratives pour diverses raisons. On peut citer les cas de Maroua Ier, Banganté, San Melima, Tchang et Tonga. Dans chaque cas, les responsables locaux du RDPC se sont toujours pliés à la décision de l'autorité administrative qui apprécie mieux le climat social et les risques éventuels de troubles à l'ordre public. Mais chaque fois que l'autorité administrative rejette une demande de manifestation d'une formation politique, d'une certaine opposition, une polémique éclate sur la place publique. Les autorités administratives sont responsables du maintien de l'ordre public, de la protection des personnes et de leurs biens. Elles font et feront toujours leur travail sans état d'âme et dans l'intérêt de tous les citoyens. Dans sa roublardise et son attitude conspirationniste, le député qui tente désespérément d'arracher un parti politique à son légitime fondateur et grâce auquel il est sorti de l'anonymat, prétend avoir discuté avec des autorités administratives qui ne seraient pas d'accord avec les décisions prises par leur hiérarchie. Grâce à la haute clairvoyance du chef de l'État, Paul Biya, le Cameroun est un pays de liberté. Les avancées démocratiques sont incontestables. Cependant, comme chacun le sait, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Le MINAT tient à dire aux acteurs politiques de l'opposition qui brandissent l'épouvantail du chaos lors de l'élection présidentielle de 2025 que ce scrutin se tiendra dans le calme, la sérénité et sans perturbation comme en 2011 et 2018. Bien plus, les textes qui encadrent le processus électoral seront scrupuleusement respectés. Tous les leviers de la loi du 19 décembre 1990 régissant les partis politiques, notamment les dispositions pertinentes des articles 17, 18, 19 et 20 seront appliqués à la lettre. Par conséquent, le MINAT met en garde les acteurs politiques hantés par les démons de la déstabilisation. Ceux-ci seront traqués où qu'ils se trouvent et traduits devant les instances judiciaires selon la gravité de leur forfait. Aucun écart de comportement comportement ne sera toléré, tous les acteurs des comportements anti-républicains et conspirationnistes feront face à la rigueur de la loi. Les Camerounais ne doivent pas se laisser manipuler par des hommes politiques véreux qui souhaitent obtenir par la rue ce qu'ils sont incapables d'obtenir dans les urnes. Les raccourcis antidémocratiques n'ont pas de place dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Enfin, le ministre de l'administration territoriale, en tant que tutelle des partis politiques, tient à rappeler que les leaders des partis politiques s'adressent à leurs militants et sympathisants, tandis que seul le chef de l'État qui incarne les institutions de la République est habilité à s'adresser au peuple, selon la formule consacrée « Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, les contrevenants n'ont qu'à bien s'éteindre ». Signé à Tanganjipol, ministre de l'administration territoriale. Gardons aux acteurs politiques hantés par les démons de la déstabilisation. Ils seront traduits, vous venez de l'écouter, devant les instances judiciaires. La mise en garde est donc du ministre de l'administration territoriale dans ce communiqué radio parvenu à notre rédaction. C'est au travers de messages tendancieux, anti-républicains et même irrévérencieux vis-à-vis du président de la République diffusés ces derniers jours. Donc aucun écart ne sera toléré. Constance.
Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 19 mai, l'honorable Kabra Libi du PCRN parle du Cameroun qui aurait franchi, je cite, un nouveau palier de sauvagerie et de chaos généralisé de fin de règne, fin de citation. Le député de la Nation, au sujet du président de la République, parle d'un vieil homme et de quelques membres du gouvernement, comme je cite, des sauvages qui profitent de la fatigue du président Biya, fin de citation. Ces derniers, je cite, tiennent à abuser de lui en le maintenant à un poste où il ne tient plus. Fin de citation. De son côté, le professeur Maurice Kamto du MRC, dans une vidéo, dit qu'en 2025, je cite, « S'ils essayent, en référence aux gens du pouvoir, ça prendra ce que ça prendra, les survivants arrangeront le pays. » Fin de citation. Des messages vidéo que le ministre de l'administration territoriale qualifie de tendancieux et anti-républicains dans le but de troubler l'ordre public, discréditer l'État et provoquer des remous sociaux à des fins égoïstes. Et Paul Atanganji de rappeler que l'outrage au président de la République est réprimé par le code pénal. La surenchère verbale prenant des proportions inquiétantes alors que le Cameroun se prépare pour l'année électorale de 2025. Le ministre de l'administration territoriale rassure cependant les Camerounais que le scrutin présidentiel à venir se tiendra dans le calme, la sérénité et sans perturbation. Aucun écart de comportement ne sera toléré. Les acteurs politiques dont les officines brandissent l'épouvantail du chaos et qui entreprendraient une action dans ce sens répondront de leurs actes devant les instances judiciaires. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur, rappelle la tutelle des partis politiques.
Lutte contre le financement du terrorisme, l'État sensibilise ses organismes à but non lucratif sur les risques de participation au processus d'infiltration ou de blanchiment de capitaux. Un programme de formation organisé par les ministères des Finances et de l'administration territoriale est en cours à leur intention depuis ce jeudi matin. Deux jours d'outillage sur le phénomène, le cadre réglementaire autour et les mesures répressives qui pourraient en découler. L'ouverture de cette session, la première d'une série de quatre, était présidée par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, que je vous propose d'écouter dans cet extrait de discours sélectionné par Rabia Toufou Daoutou.
L'atelier qui commence ce jour est le premier d'une série de quatre sessions consacrées à la sensibilisation des organismes à but non lucratif sur les risques de financement du terrorisme auxquels est exposé leur secteur d'activité. Ce n'est un secret pour personne que le terrorisme sévit dans le monde entier et sous des formes très variées. Les incursions de Boko Haram dans la partie septentrionale, les graves exactions commises par les groupes terroristes dits sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le climat d'insécurité entretenu dans la région de l'Est par les groupes rebelles venant de la RCA et des autres pays voisins. Le terrorisme est donc une réalité dans notre pays, certes, mais je précise, il n'est pas une fatalité. La lutte contre le terrorisme passe également et avant tout par le combat contre ces diverses formes de financement. Car autant le terrorisme se manifeste sous diverses formes, autant les financements sont également variés et parfois insoupçonnable. L'un des moyens de financement observés par les experts est l'utilisation abusive des organismes à but non lucratif pour faire acheminer la logistique et les moyens financiers aux groupes terroristes.
Le ministre des Domaines et des Affaires foncières informe le public que l'espace de 400 000 hectares sollicité par la société Lyrebird pour une attribution en concession dans la Haute-Sanaga demeure toujours disponible dans leur statut juridique de dépendance du domaine national. Le ministre Henri Eyibé Ayissi indique ainsi que des procédures de nouvelles concessions peuvent y être engagées. C'est la substance d'un communiqué rendu public ce jour relatif à la situation du dossier de demande de dérogation spéciale pour l'attribution en concession d'une dépendance du domaine national de 400 000 hectares dans le département de la Haute-Sanaga, introduit par la société Lyrebird Capital Company en 2023. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural n'a pas manqué de saluer les actions du Programme alimentaire mondial qui apporte son soutien aux côtés du gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté et surtout à faire du Cameroun un pays autosuffisant. Le ministre de l'Agriculture est dans la région de l'extrême nord. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Francine Djaba.
Le Programme alimentaire mondial, non seulement il soutient tous les jours en termes de renforcement de capacité de nos collaborateurs, aussi en termes d'analyse de la situation alimentaire dans notre pays. Aujourd'hui, ils viennent de renforcer cette collaboration-là en nous aidant à disposer des bâtiments pour les délégations d'arrondissement de Maroua 1er et Maroua 2e. Ceci témoigne de leur volonté de soutenir le gouvernement camerounais dans sa lutte contre la pauvreté et surtout dans son engagement à faire de notre pays un pays autosuffisant pour l'alimentation et la nutrition. Nous avons fait un cycle complet d'assistance aux populations vulnérables. C'est un peu ce que le gouvernement met en place pour construire la résilience des populations afin de répondre aux effets négatifs des changements climatiques. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu à Mokyo.
Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Mbayirobe, vient donc de lancer dans la région de l'extrême nord le programme d'urgence de lutte contre la crise alimentaire au Cameroun. Bien avant cela, il a procédé à la pose de la première pierre de construction des délégations d'arrondissement de Maroua 1er et 2e du Minader. Des initiatives qu'accompagne le programme alimentaire mondial dans le but de renforcer la sécurité alimentaire dans cette région. TIC, les bonnes pratiques dans la lutte contre la cybercriminalité sont enseignées à Yaoundé. Aux professionnels des médias, cette mi-journée, un atelier de renforcement des capacités menées par l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication permet aux journalistes de séjourner de déjouer des pièges des cybercriminels sur la toile. Gilles-Claude Mbongitundi.
Sur la toile, les embuscades virtuelles sont légion. 2800 cas de phishing, 6650 cas d'usurpation d'identité et plus de 6 milliards de francs CFA dérobés par les techniques du skimming. Pour Tricia Aubin, présidente du regroupement The Down Journalist Association, la corporation doit faire sa mise à jour.
Comment détecter ces crimes et comment gérer ces crimes? Parce que quand tu es en face de le vol d'identité, par exemple, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ce n'est pas question de jeter le téléphone.
La révolution numérique est rapide et véhicule de nombreuses dérives. Les assauts par hameçonnage, les invasions de logiciels malveillants et les razzias des données deviennent le quotidien des journalistes. Reconnaître les vulnérabilités, signaler les arnaques en ligne, mais aussi savoir trier les bonnes des fausses nouvelles, font partie des modules de 2 jours de formation. Avec un taux de pénétration d'Internet au Cameroun de 45,6% en 2023, l'information fait partie des 5 secteurs les plus touchés par les cyberattaques.
La 52e édition de la Fête nationale de l'unité se prépare sereinement à l'ambassade du Cameroun au Japon. À cet effet, une réunion préparatoire a eu lieu hier pour évaluer toutes les articulations liées à la célébration prévue samedi 25 mai. Sur l'état des préparatifs et les raisons du report de la Fête nationale de l'unité à Tokyo au Japon, je vous propose d'écouter Son Excellence Pierre Nzenge, ambassadeur du Cameroun au Japon. Il est au micro de Manfred Ebeni.
Les gens sont mobilisés parce qu'en fait, qu'est-ce que nous faisons ici? C'est que nous envoyons des invitations. Moi-même, ambassadeur, je reçois les leaders de notre communauté. Ils étaient ici. Je leur dis, bon, voilà l'événement qui se prépare. Et c'est à eux, donc, de disséminer l'information au niveau de leurs frères et sœurs. Nous sommes en droit d'attendre une large participation de nos compatriotes le 25 mai. J'ai dit que le 20 mai tombe un lundi. Bon, nous, on n'est pas au Cameroun, où on décrète férié chômé et tout le monde va venir. Bon, ici, nous sommes au Japon, où les gens sont au travail, et par conséquent, quand j'ai requis l'avis, n'est-ce pas, des leaders de la communauté, ils m'ont dit, Excellence, pour que nous ayons la possibilité de venir, la majorité des compatriotes viennent à la fête, il faudrait que ce soit un week-end. Et le week-end, c'est le samedi 25. Il s'agit de l'unité des Camerounais. Il s'agit, n'est-ce pas, de la prospérité du Cameroun. Et c'est en partie notre mission aussi de contribuer à cette prospérité.
Le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kava Yégué Djibril, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que suite au très haut accord du président de la République, Paul Biya, le Cameroun accueille la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie du 28 au 30 mai 2024. Ce sera au Palais des congrès de Yaoundé. À cet effet, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, président de la section camerounaise de l'AFP, l'honorable Eton Hilarion, tiendra un point de presse à son cabinet demain vendredi 24 mai à 11h précise. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale informe les organes de presse accrédités pour la couverture médiatique de la 30e Assemblée régionale Afrique de l'AFP du 28 au 30 mai qu'ils peuvent d'ores et déjà prendre la tâche de la cellule de communication et de relations publiques de l'Assemblée nationale. L'ONG LAFTA, entendez, Living Alternative Ford Agency, dédiée aux personnes âgées, informe le public qu'à la suite du casting Miss Mister de l'édition 2024 de son concours de beauté tenu le 4 mai dernier à Yaoundé, eh bien la cérémonie de couronnement de la Miss et du Mister LAFTA 2024 prévue le samedi 25 mai 2024 est reportée à une date ultérieure. En marge de la conférence conjointe des sous-sections RDPC, OF et OJRDPC de Koundoum dans la section RDPC du Noun Centre 1, le ministre délégué auprès du ministre des Transports El Hadj Ndji Njoya Zakariaou procédera le samedi 25 mai à 10h précise à la place du marché de Manfou par Koundoum à la remise d'un important don de matériel et intrants agricoles aux organisations aux organisations paysannes de cette unité politique, ce dans le cadre de l'accompagnement de la base militante au travers des activités agricoles génératrices de revenus. Nécrologie dans le Trésor, Karine Olive Yabit n'est plus. La journaliste et présentatrice des journaux télévisés à la CRTV est décédée au petit matin ce jeudi des suites de maladies à Paris en France. Une triste nouvelle qui laisse ses collègues et amis sans voix. Évocation avec Christine Victoria Penda.
Personne n'aurait souhaité pareille information au petit matin de ce jeudi grisâtre. Karine Olive Yabit n'est plus. Collègues et confrères sont stupéfaits.
J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à intégrer ça. Je crois que je vais me réveiller en fait.
C'est incroyable que je parle de Karine Olive au passé.
C'est très douloureux et dur.
Unique, singulière, les souvenirs sont encore vivaces. Rachel Malongo.
Ce dont je me souviens, c'est qu'à la rédaction, on lui avait donné le petit nom de commissaire parce qu'il réalisait beaucoup d'enquêtes, de reportages de terrain. Il faisait très bien. Du coup, on lui a donné ce petit nom-là. Karine n'avait jamais un mot plus haut que l'autre. Karine, elle était une personne bien.
Rabiatou Foudaoutou, collègue.
C'est remonté 26 ans en arrière. Cette belle personne, tellement dévouée à la tâche, tellement assidue, tellement organisée, tellement professionnelle dans tout ce qu'elle faisait. Karine a su m'aider à cadrer mes activités sans s'en rendre compte. C'était quelqu'un d'unique.
André Billon, confrère.
Une consoeur professionnelle qui avait le goût du travail bien fait et qui a gardé une très grande humilité.
Son thème vocal particulier et sa prestance singulière ne sont plus de ce monde. Repose en paix, Karine Olive.
Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a le plaisir de porter à la connaissance de l'opinion publique et de la communauté universitaire que la 24e édition des Jeux universitaires se déroulera à l'Université de Garoua du 25 au 1er juin 2024. Cette grande manifestation, prix 2024 de l'événement sportif de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, va connaître la participation de plus de 4050 participants issus de 22 institutions publiques et privées d'enseignement supérieur, avec notamment 116 responsables administratifs, 696 encadreurs et officiels techniques, 3238 étudiants, athlètes et fan clubs en compétition dans diverses disciplines sportives olympiques, paralympiques et culturelles. Les Jeux universitaires sont une occasion unique pour les étudiants de démontrer leur talent sportif, de promouvoir l'esprit de compétition et de vivre une expérience enrichissante dans le brassage des membres de la communauté universitaire. C'est également une plateforme importante pour identifier et soutenir les athlètes promoteurs qui représenteront notre pays lors des compétitions internationales. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, invite l'ensemble de la communauté nationale ainsi que les partenaires à soutenir cet événement et à contribuer à son succès. La cérémonie d'ouverture prévue le samedi 25 mai dès 12h au campus de Djoumassi sera présidée par le professeur Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, président du Conseil fédéral de la Fédération nationale du sport universitaire, assisté du professeur Narcisse Mouelé-Combi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, vice-président du dit conseil. C'est signé le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo. Parlons à présent de l'accident de Ngaoundéré. La situation des blessés évolue positivement un jour après le drame. 28 des 35 admis à l'hôpital régional ont été libérés. Le staff médical rassure que le pronostic vital de ceux qui sont encore hospitalisés n'est pas engagé. Le gouverneur de la Damawa, dans un communiqué, leur souhaite prendre rétablissement en même temps qu'il invite les usagers de la route à plus de prudence. Voici le reportage d'Alexis Guidjartouan.
Ambiance dans les services de chirurgie de l'hôpital régional de Ngaoundéré et qui confirme la bonne évolution de l'état de santé des victimes de l'accident de ce mercredi.
Voici Bingé, Romuald, ça va beaucoup mieux. Il sent mon corps, il sent mes jambes, tout est OK.
Globalement, la situation est moins inquiétante. Le staff médical qui reste toujours mobilisé se veut rassurant.
Nous avons pu libérer 28 traumatisés et il nous reste actuellement 7 patients. Les deux qui étaient en réanimation se sont réveillés. L'une d'elles a été libérée. Celui qu'on a opéré se sent également nettement mieux.
Aussitôt libéré, ils peuvent continuer le voyage et l'équipe médicale de l'Institut universitaire des sciences et techniques de Yaoundé est confiante.
Le moral, il est au beau fixe comme tout bon Camerounais. Je pense qu'on va réévaluer l'équipe d'ici quelques jours. Nous pensons que nous allons aller à Garoua et que nous allons compétir comme cela a été prévu au départ.
Le gouverneur de la Damawa, qui veille au grain, souhaite un prompt rétablissement à ceux qui sont en coralité et prescrit vigilance à ceux qui reprennent le voyage.
Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, la fièvre des préparatifs monte autour des matchs Cameroun contre Cap-Vert et Angola contre Cameroun. Le staff technique mis à disposition par le gouvernement était cette fin de matinée au stade de Ngoïkélé, site d'entraînement retenu pour le 11 national. Marc Brice est allé se réassurer que l'aire de jeu et les autres installations sont en parfait état de fonctionnement. Le défenseur Jean-Charles Castelletto est forfait pour ces deux prochaines rencontres. À présent, voici le condensé des nouvelles du jour en anglais. Manka A Ambi.
Good afternoon. The Prime Minister, Head of Government, Joseph John Gute, has on behalf of the President of the Republic officially opened the meeting of Ministers of Mines of the Organization of African, Caribbean and Pacific Countries, as well as the fourth edition of the Cameroon International Mining and Exhibition Convention. The event taking place at the Yaoundé Conference Center is being attended by delegates from ACP member countries, regional organizations and investors of the mining sector, amongst others. For 3 days, the participants shall brainstorm on the opportunities of the mining sector, the importance of forming win-win partnerships, and on strategies of harnessing the mining potential to power economic growth in ACP countries. The Minister of Territorial Administration has warned politicians inciting a rebellion against the state during the 2025 presidential election or using derogatory statements against the personality of the President of the Republic that they will face the heavy arm of the law. Paula Tanganji's press release follows inflammatory declarations made by two politicians recently in relation to the upcoming presidential election in 2025, while warning that derogatory statements against the President of the Republic are punishable in line with provisions of the Penal Code. And Minister Tanganji calls on all Cameroonians to be responsible and avoid all forms of manipulation from politicians which are likely to compromise state authority and public order. Non-profit organizations have been cautioned to be on the guard and ensure they use funds put at their disposal judiciously. The Minister of Finance, Louis Paul Motazi, was speaking today in Yaoundé at the start of a two-day workshop to sensitize non-profit organizations to the risk of terrorist financing jointly organized by the Ministries of Finance and Territorial Administration. Some journalists from media houses across Cameroon have begun strengthening their capacities in the area of information protection on the cyberspace. The training that opened in Yaoundé today is organized by a journalist association known as the DAWN in collaboration with the National Agency for Information and Communication Technologies, ANTIC. On today's sad news, the death has been announced of CRTV's senior reporter, Karine Olivier. Reports say she died in a hospital in Paris, France, after an illness early today. Many colleagues have described the fallen journalist as a gentle, kind, and soft-spoken personality whose departure has left them speechless. Late Karine Olivier Abid was one of the presenters of the 8:30 p.m. news in the French language on CRTV television. We pray the angels in heaven receive her soul and grant her eternal rest. And the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, is attending the investiture ceremony of President Mahamat Idriss Déby, President of the Republic of Chad, in his capacity as representative of President Paul Biya. The ceremony that is taking place in Jamina marks the end of a three-year period of transition. President Mahamat Déby becomes the first president of the Fifth Republic. And in sport, 19 out of the 22 delegates expected to take part in the 2024 University Games are already in Garoua. The remaining three delegates are on their way, and the games will kick off this Saturday, the 25th of May, 2024. Director of the University of Garoua, Professor Boubacar Ousmane, has reaffirmed the commitment of his institution to ensure that all the athletes are comfortable in the event. These stories and more for you at 3 p.m.
Les membres du conseil d'administration de l'Organisation régionale africaine de communication par satellite dénommée RASCOM ont tenu leur 74e réunion du conseil d'administration à Yaoundé. C'était en présence du directeur général de Camtel. Les acteurs ont décidé d'offrir des services de télécommunication plus efficaces et moins coûteux, surtout à l'heure où de nombreux internautes se plaignent ces derniers temps d'une mauvaise connectivité. Alain-Georges Bikele, CRTV Centre.
L'Afrique est plus que jamais déterminée à améliorer son infrastructure de télécommunication afin de fournir des moyens de télécom plus efficaces à l'ensemble du continent. En lançant la 74e session ordinaire de son conseil d'administration, l'Organisation régionale africaine de communication par satellite veut, avec le Cameroun à travers Camtel, se pencher sur le problème satellitaire. Bini Kwame, président du conseil d'administration de la RASCOM.
Nous essayons, dans la mesure du possible, de tenir 3-4 réunions par an à la sollicitation du Cameroun. Madame la directrice générale a bien voulu accepter de nous recevoir. Et nous sommes aujourd'hui à notre 74e session ordinaire du conseil d'administration.
Il y a quelques semaines, le Cameroun et d'autres pays d'Afrique ont connu des perturbations du réseau Internet. Les assises de Yaoundé sont une aubaine pour trouver des pistes de solutions à cet épineux problème. Judith Yassondé, directeur général de Camtel.
Aujourd'hui, la solution satellitaire se présente comme une opportunité et une redondance qui permettra à l'ensemble des pays de pouvoir toujours être connectés, quels que soient, n'est-ce pas, les problèmes que nous pouvons avoir avec les autres voies de communication telles que les câbles sous-marins.
Prévu pour 3 jours, avec pour objectif de combler les besoins de transmission de la radiodiffusion sonore, télévisuelle et la réception communautaire par satellite dans toutes les régions d'Afrique.
À retenir de cette édition qui s'achève, la CIMEX à l'heure des défis et enjeux mondiaux, la 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun s'est officiellement ouverte ce matin au Palais des Congrès de Yaoundé. La cérémonie était présidée au nom du chef de l'État par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté. 13h39 minutes à Yaoundé, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer un excellent après-midi.